sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
C'est le 27 février 1996, Jennifer Geneviève, qu'est sorti le premier jeu de la franchise japonaise Pokémon. Ensuite, on a distribué autant de séries télé que de films que de BD qui ont fait et défait nos amitiés d'enfance. Voici Kiosque Magazine.
Kiosque Magazine.
Nous sommes le 27 février 2015. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Charles Roy au micro, accompagné de Jennifer Vignery et de Geneviève Patterson. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
C'était quoi votre Pokémon préféré, vous,
Jennifer? Ah ben, écoute, moi, pour moi, le plus mignon, ça restait quand même Pikachu.
Bah, le classique.
Puis, je dois bien avouer qu'il n'y a que lui... dont je me souviens le nom, parce qu'ils sont tellement nombreux
oui,
que
oui.
Bon.
Ça fait longtemps aussi.
Voilà.
150 Pokémon quand même, faut se le rappeler, la première génération. Bien moi, Charles, mon Pokémon préféré, je vais dire Charmander, parce que c'est un mignon petit dragon qui pouvait devenir encore plus puissant. Il devenait Charizard, si ma mémoire est
bonne. Le gros dragon.
Le gros dragon.
Ben, t'as volé le mien, là. Charmander, si mignon, et il devient si brutal à la fin.
Il fait quelque chose devient moins populaire, du coup.
Oui. Ouais. Ben, on a une émission animée, les filles. On parlera pas de Pokémon tout le long. Jennifer, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, moi, je vais vous parler de Galaxy, qui sort son nouvel album intitulé Zulu. Donc, c'est un album un petit peu de mélange entre le rock et la fiction. On en reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je vous emmènerai également au cinéma avec le film Elephant Song, où cette fois-ci, Xavier Dolan n'est pas derrière la caméra, mais bien devant. Et puis, La Petite Italie a un projet de cinéma avec un nouveau concept de choses intéressantes au niveau culturel. Ça peut être assez intéressant de voir ça. Et puis, c'est la semaine de la relâche pour les enfants qui va être... Voilà, exactement, sous le signe de la culture. Donc, je vous parlerai des quelques activités qu'on pourra y faire.
Mais merci, Geneviève.
De mon côté, moi aussi, je vais parler un peu des activités que l'on pourra faire lors de la semaine de relâche qui s'en vient la semaine prochaine pour nos petits amis. Et puis, je vous parle de cinéma, de musique, de New York et d'un grand acteur québécois que j'apprécie beaucoup.
Bon, tu nous laisses sur le suspense.
Toujours.
Bon. Et je vous parle d'une pièce de théâtre qui s'est présentée à Québec, Julie, tragédie canine, mal de chien. Pendant la nuit blanche, je vous propose quelques sorties de danse, l'exposition tirée par les chevaux, ça c'est à Québec, et aussi une exposition à Trois-Rivières, le passage 5S.
Des élèves de la CSDM vont jouer au Carnegie Hall en fin de semaine. C'est un article, impressionnant. Très impressionnant, une belle expérience. Ça a paru cette semaine dans le journal Métro, un article de Marie-Ève Schaffer. Donc, des élèves inscrits au programme Art-études de l'école secondaire Joseph-François Perrault vont se rendre donc en fin de semaine à New York pour se produire dans la prestigieuse salle de concert Carnegie Hall. Donc, il y a 65 musiciens de l'Orchestre symphonique de Joseph-François Perrault qui ont pratiqué pour l'une des dernières fois avant leur grand départ en fin de semaine. Ils ont joué les trois morceaux qu'ils vont présenter devant presque 2000 spectateurs. Tout d'abord, le premier mouvement de la 8e symphonie de Dvorak, l'ouverture académique de Brahms, ainsi que la Boda de Luis D'Alonso, Geronimo Jimenez. Les jeunes sont fébriles et aussi un peu nerveux, a confié le directeur musical de l'école, Éric Levasseur, qui coordonne les mouvements de l'orchestre depuis près de 4 ans. « J'ai vraiment hâte, c'est fou », a dit Erin, 15 ans, qui joue du violon depuis une dizaine d'années. Les trois percussionnistes, oui, Carl, Philippe, Arthur et Alexandre jubilent aussi à l'idée de jouer à New York. Les musiciens, rappelons-le, sont âgés de 14 à 17 ans et comme cela se fait dans les milieux professionnels, ils ont tous été choisis à la suite d'une audition parmi les 800 élèves inscrits au programme de musique de l'école. Les jeunes de l'école Joseph-François Perrault ont participé l'année dernière à un concours musical à Boston et ils avaient remporté les grands honneurs, ce qui leur a permis d'auditionner pour le festival At Carnegie Hall, qui est organisé par le World Stride Heritage Performance. Il y a un jury indépendant qui a sélectionné l'orchestre symphonique de Joseph-François Perrault ainsi que l'orchestre avant de la même école qui va jouer en son tour au mois d'avril dans la mythique salle de concert où plusieurs grands musiciens se sont produits. Et ça me fait penser, vraiment, c'est une expérience incroyable d'aller à New York à un si jeune âge.
Oh, oui, il y a des musiciens professionnels qui rêvent de jouer là.
Qui rêvent de jouer là.
Peut-être ne joueront jamais là. Mm-hmm, ouais.
C'est une chance unique. Et il y a quand même plusieurs personnes qui partent à New York lors de la semaine de relâche. Et ça fait penser, histoire d'encourager la relève musicale, il y a des activités à moins de 35 $ notamment dans la région de Montréal. Si on veut encourager les orchestres de jeunes, les compositeurs étudiants ou les récents diplômés, ils jouent de grandes œuvres de répertoire en concert 3 ou 4 fois par année et ils vendent leurs billets à bas prix. Donc, on parle de l'Orchestre lyrique de Montréal, l'Orchestre symphonique de l'Agora, l'Orchestre de l'Université de Montréal, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Montréal et l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal, entre autres. Donc, pour les intéressés.
On vient d'entendre la musique de Beck et la pièce Modern Guild. Jennifer, on reste toujours en musique.
Oui, on reste en musique car 4 ans après Tigre et Diesel, Galaxy nous revient avec Zulu, un album où le rock 70s, la science-fiction et les rythmes africains s'entrechoquent. Pour notre plus grand bonheur, c'est Claude André qui nous en parle dans le journal du Métro du mardi 24 février. C'est un Olivier Langevin souriant qui nous accueille à la taverne Saint-Sacrement. Nouveau papa depuis 7 mois, il a devant lui une pinte remplie d'eau. « Je vais jouer au hockey après », nous expliquera-t-il, en nous apprenant que son compagnon d'armes, Fred Fortin, qui officie à la base dans Galaxy en parallèle à sa carrière solo, et son bande Gros Menet, fait aussi partie d'une ligne de garage. Les gars de la bande ont beau avoir franchi le cap de la mi-trentaine, ils n'en demeurent pas moins des ticus. En témoigne d'ailleurs Zulu, cet album où les influences de Black Sabbath, Hendrix et plus récemment MGMT se font peut-être sentir davantage que sur le précédent qui laissait plus de place à l'électropop. Pour chaque album, j'essaie d'aller ailleurs, mais ça demeure la même personne qui compose et écrit. Si je voulais faire autre chose, je changerais le nom du groupe, car les gens qui viennent voir Galaxy s'attendent à du rock solide et à la grosse énergie. Lui qui, avec le reste de l'équipe, qui comprend aussi François Lafontaine au clavier, a cette fois laissé tomber le bidouillage studio pour revenir à la bonne vieille formule live en studio. Décision qui n'est pas sans contribuer au cachet 70s de l'album. Je parlais énormément de robots et de musique africaine pendant le processus de création. Il y a toujours eu une ambiance de science-fiction dans Galaxy, car j'en suis un fan. J'aime bien l'idée de me mettre dans la peau d'une créature étrange lorsque j'écris et explique Bluet Mutant qui, depuis une dizaine d'années, voue une grande admiration au musicien malien Ali Farka Touré. Depuis que je l'ai découvert, j'ai toujours eu envie d'intégrer des grooves africains à ma musique. Pendant que j'enregistrais la chanson-titre, je visionnais des vidéos des danses zoulous sur YouTube et ça me fascinait. On dirait que toutes les racines du blues viennent de ces rythmes-là, explique le musicien.
À premier acte à Québec, il y aura une pièce qui sera à l'affiche, qui est à l'affiche en ce moment même, jusqu'au 14 mars, qui s'appelle Julie, tragédie canine, un texte de Samuel Corbeil, Pascal Renaud-Hébert, avec la participation du metteur en scène Jean-Philippe Joubert. Isabelle Hout, dans Le Soleil, a écrit un papier là-dessus, publié le 22 février dernier. Voici le synopsis de la pièce. Julie a disparu. Guillaume en est le responsable. Il regardait le baseball au lieu de surveiller la chienne. Donc, on comprend que Julie, c'est une chienne. Laurence, sa copine, ne lui pardonne pas et met Guillaume à la porte, même après leurs 10 années de vie commune et leur projet d'acheter une maison. Ben, je pense pas qu'il y avait juste... C'était pas juste une histoire de chien. Je pense qu'il y avait autre chose derrière. C'était peut-être le déclencheur. Guillaume se trouve refuge chez des amis. Un couple pour qui cette rupture représente une menace pour leur propre avenir. Ils leur promettent de rétablir la situation coûte que coûte. Alors, ça promet d'être un spectacle fort à rebondissement. Le metteur en scène, Jean-Philippe Joubert, s'est laissé convaincre par l'apparition de 2 nouveaux personnages par rapport à la pièce qui a été originairement écrite. Donc, le couple d'amis, chez qui la rupture entre Guillaume et Laurence aura des répercussions énormes. Jade, agente immobilière, comptait absolument sur la commission de la vente d'une maison de ses amis pour se sortir de l'endettement. Si le projet ne tient plus entre Guillaume et Laurence, elle se trouve entre de beaux draps. C'est à partir de ce moment-là que la pièce s'est ouverte sur des notions d'ambition, de vivre au-dessus de ses moyens, d'endettement, de fatalité économique. Et j'ai vu tout un univers dont j'avais envie de parler, ajoute Jean-Philippe Joubert. Surtout, le metteur en scène a été séduit par l'humour et le ton vif de l'écriture de ses ex-étudiants. Si la situation est quelque chose d'universel, le langage, lui, est bel et bien à l'image des jeunes adultes d'aujourd'hui. Il y a une énergie du tonnerre dans leur jeu et un humour assez étonnant, assez rafraîchissant, qui me plaît beaucoup, note le metteur en scène. Ce spectacle est à l'affiche à premier acte jusqu'au 14 mars.
C'est un duel au sommet que nous proposent Xavier Dolan et Bruce Greenwood dans le film Elephant Song, un film de Charles Binamé. C'est plus exactement Martin Gignac qui nous en parle dans le journal du métro. Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. Cette comptine prend un tout autre sens dans Elephant Song, la transposition cinématographique de la pièce de Nicolas Billon qui signe le scénario et l'adaptation pour le film. Alors qu'un éminent psychiatre est porté disparu, le directeur de l'hôpital où il travaille, joué par Bruce Greenwood, interroge Michael, joué par Xavier Dolan, le dernier patient à l'avoir vu. S'ensuit un duel de manipulation du style du jeu, du chat et de la souris. Le jeu est d'ailleurs au centre de la performance de Xavier Dolan qui n'a jamais vu son personnage comme un fou. mais plutôt comme un acteur qui interprète un rôle. Son travail n'était pas tant de puiser au sein de la psychologie de l'être qu'il incarne que de trouver l'émotion juste. Je ne sais pas à quel point ces éléments-là, cette recherche-là, doivent influencer chaque réplique, chaque scène, chaque regard, confie celui qui semble avoir pris comme modèle le Brad Pitt de 12 Monkeys. Les gens doivent vivre avec qui ils sont et ce qu'ils ont vécu. Mais il y a d'autres choses qui les définissent aussi. Non, je n'ai pas trop voulu jouer le gars qui a été mal aimé par sa mère ou qui a été traumatisé par son père. Recourir au créateur de Mommy était une évidence pour Charles Binamé. Je pense qu'il est né pour faire ce film-là, assure le cinéaste. Voilà un personnage qui, en apparence, est extrêmement ludique et qui recouvre une réalité beaucoup plus profonde. C'est un illusionniste de talent, magnifiquement baveux et menteur comme il le faut. Xavier est un acteur exceptionnel qui peut rendre tout ça. Tourné dans la langue de Shakespeare et faisant appel à de nombreux comédiens anglophones réputés, outre Greenwood, Catherine Keener et Karine Ann Moss, figure au générique, Elephant Song est d'abord et avant tout un huis clos qui ne renie pas ses origines et qui nécessite un travail sur la mise en scène pour éviter le simple théâtre filmé.
Y'en a vraiment trop en dedans pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste et ma tête s'évapore. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Sur nos mains et en même temps nos souvenirs s'éloignent, même si on se perd trop souvent. Nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en prie. Entre aujourd'hui et demain, reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent.
Et nous venons d'entendre Jusqu'à la fin de Galaxy, dont je parlais en tout début d'émission. J'apporte juste une petite précision sur le film Elephant Song, qui est présentement en salle. Donc allez-y le voir. Et puis je crois qu'on va rester en cinéma. Et alors Geneviève, tu vas nous parler d'un grand blond. Qui est ce grand blond?
Ce grand blond, eh bien, c'est évidemment Marc Labrèche, qui mardi soir dernier a parlé des supermarchés de Saint-Lambert, de la sacoche de Reynald et de sa haine du Golfe dans le cadre d'une leçon de cinéma ponctuée de ses points d'humour absurdes qui ont fait sa marque. Des leçons de cinéma dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois qui vont avoir lieu jusqu'à demain. De son premier baiser donné sur une scène et applaudi par 800 personnes, aux séances de répétition des Aiguilles et l'Opium qui se déroulaient au début des années 1990 en terre suédoise, dans la maison de Bergman, meublée par les chuchotements des âmes nordiques souffrantes et des dents tombantes, Marc Labrèche a parcouru sa carrière avec toute l'imagination, l'humour et le sens de la répartie qu'on lui connaît. Passant d'un sujet à l'autre, ce grand amoureux de Peter Sellers a vanté les charmes de sa municipalité d'habitation, la magnifique bourgade de Saint-Lambert, qui a le luxe de posséder deux IGA, dont un pour les jeunes, situé près de la boutique de Ricardo, et l'autre pour les personnes âgées, où on trouve des aubaines du tonnerre. Profitez-en, public, et où il adore se rendre. J'aime mes vieux, je suis née pour aimer mes vieux. Je les suis dans les allées, je ne les dépasse pas, je ne leur ferai jamais l'affront de les dépasser. Quand ils me parlent en anglais, je leur réponds, mais avec un accent pour ne pas les choquer. A-t-il raconté avant de s'exclamer, c'est irrésistible, je veux aller là tout le temps. Côté rôle, la brèche est revenue sur le mythique Rénal de Paris, de la tout aussi mythique Petite Vie. Écoutez-vous La Petite Vie?
Moi, ma mère trouvait ça trop vulgaire, alors elle m'empêchait de voir ça.
Elle t'a empêché.
Mais ma gardienne me laissait me
tu regardais ça en cachette.
Privilège. Oui. C'était comme un petit oiseau pour moi, une espèce d'oiseau-lait, un bébé faucon difforme, a-t-il dit poétiquement au sujet de cet homme qui était possédé par la Bamba. Oui, on se souvient du personnage de Rénal de Paris qui était fasciné par cette chanson. Il a aussi souligné avoir véritablement capté son personnage lorsque le fameux sac à main tant prisé par Pinson s'est pointé dans le portrait. Tout s'est décidé, très honnêtement, quand la sacoche est arrivée, car il fut un temps où mes bras étaient un obstacle à mon développement. Généreux, l'acteur n'a pas lésiné sur les réponses honnêtes, voire étonnantes. Il a aussi avoué qu'à la fin de la tournée de la comédie musicale micro-phénomène Pied de poule, tout le monde se boudait dans l'équipe. On a pogné une écœurantite. Je n'ai pas parlé à Normand Brathwaite pendant des années. Maintenant, quand je le revois, je suis émue aux larmes. Comme quoi, le théâtre et la scène, c'est vraiment plein d'émotions.
Mm-hmm.
Entre une réflexion sur la camaraderie, c'est étrange quand même, dit Marc Labrèche, l'amitié qui traverse les âges et qui se modifie sans se modifier. Et une anecdote d'époque festive, j'ai déjà repris conscience sur le pont Jacques-Cartier à 4 heures du matin et c'est la vibration des camions d'Iroux qui m'a réveillée. Celui qui aurait voulu peut-être un instant être journaliste ou avocat a à plusieurs reprises évoqué la musique. Celle de certains textes, de certains rôles et celle de l'absurde, ce style fait du choc entre les mots et les silences qui les précèdent. Notons au passage qu'il y a pour lui autant de beats en drame qu'en comédie. Tout ça sans oublier l'évocation du tournage de L'Âge des Ténèbres sur le plateau d'un Denis Arcan qu'il apprécie énormément et qui a raconté Labrèche adore rigoler. On avait tout le clown intérieur sorti et puis c'est vraiment une expérience extraordinaire comme cette soirée avec Marc Labrèche.
C'est la Nuit Blanche, samedi qui vient, à Montréal, dans les rues de Montréal. Et je vous propose quelques sorties que j'ai pigées sur le site web du Festival Montréal en Lumière.
Mm-hmm.
Alors, voici le premier des cinq sorties samedi soir. L'escouade dansante. Suivez et interceptez au passage des danseurs animateurs de l'escouade dansante dans leur déambulatoire interactif. Ornés d'objets lumineux, ils se déploieront sur la rue Sainte-Catherine pour réaliser une courte chorégraphie dans divers lieux du site extérieur. Une création de Violaine Morinville. L'événement est gratuit de 21h à 1h du matin sur la rue Sainte-Catherine. Pour les informations, le 514-715-3521. Cette activité est accessible aux personnes à mobilité réduite. Une autre activité, une autre soirée dansante, danse au ventre. Laissez-vous emporter par les rythmes orientaux qui envahiront les salles du musée, le musée d'art, le musée des Beaux-Arts de Montréal. L'activité de baladi débutera par une démonstration de différents mouvements que vous pourrez par la suite mettre en pratique. Donc à vos bédaines tout le monde, c'est de 20h à 21h au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est sur ce genre de musique que vous pourrez vous pratiquer lors des classes d'essai et de démonstration de Nocturne Tango. Et oui, une nuit de tango dans l'esprit des cafés de Buenos Aires. Les classes d'essai sont gratuites à 21h, 22h30 et à minuit. Les démonstrations de danse, elles aussi, sont gratuites, mais les réservations sont requises. C'est de 21h à 3h du matin au Tango Libre, ou Tango Libre, je ne sais pas comment qu'on dit.
Les deux.
Donc, pour réservation, 514-527-5197. Et un autre type de danse, Cayente. Oubliez la grisaille hivernale et joignez-vous à la danse Cayente au cœur de la Place des Arts. Question de vous dégourdir les jambes. Et venez dans notre faux décor de palmiers et branchez-vous sur le rythme du Sud avec Chantal Dauphinet et Uriel Aringuin. Tout est compris, comme si vous y étiez, ou presque. C'est à la Place des Arts, de 9h jusqu'à 1h du matin. Ça dure 40 minutes à chaque heure, donc c'est ça. Fait que...
Allez-y,
c'est accessible aux personnes à mobilité réduite à la Place des Arts. Et puis finalement, Improdance Voda au Water. Vous êtes invité à participer à un atelier d'exploration dansée sur le thème de l'eau. Lors de l'improvisation, vous serez accompagné par des éclairages scéniques qui recréeront différentes ambiances en lien avec l'eau. Venez jouer avec la lumière dans cet univers aquatique. L'activité est ouverte à tous et l'expérience en danse n'est pas nécessaire. C'est une activité qui est pour 18 ans et plus, c'est gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite, à 20h, 21h, 23h et minuit. Pour plus d'informations, 514-739-7944, c'est au Centre Seagull des Arts de la Seine. On s'en va le temps d'une courte pause, mais avant, on a le temps de vous proposer quelques sorties rapidement. En théâtre, c'est samedi que se termine « Qui a peur de Virginia Woolf », une pièce mise en scène par Serge Denoncourt. C'est une pièce de Édouard Albee et c'est au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts. Aussi, vous pourrez voir le théâtre tout court qui termine aussi samedi à la Petite Licorne. Les heures sont variées. C'est co-dirigé par Serge Mandeville et Véronique Raymond. À tout de suite, on se laisse le temps d'une courte pause.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Tout à l'heure, Charles nous parlait des activités gratuites qui auront lieu demain soir dans le cadre de la Nuit Blanche. Et puis, on parlait de danse, de chaleur, mais on n'a pas besoin, effectivement, de prendre le large sous les tropiques pour changer d'air durant la semaine de relâche. Il y a un article dans le journal Métro de mardi dernier intitulé « Un agenda bien rempli » de Jessica Dosti. Alors, elle a une activité par journée. Et puis moi, j'ai décidé de choisir les journées impaires parce que je me suis dit... Pour les auditeurs, ce sont les meilleures activités. Alors, lundi, c'est un recyclage d'objets usuels du quotidien. Ça peut aussi être l'occasion de donner libre cours à la créativité des petits. Par exemple, en fabriquant un joli voilier à partir de carton d'œuf, tel que vu sur de nombreux babillards Pinterest. Il suffit de ne garder que la base du carton, puis de le peindre si désiré. Et pendant que ça sèche, on crée des voiles à partir de triangles de papier qu'on fixe sur un goujon ou une brochette de bambou. Ne reste qu'à installer des personnages Playmobil, Lego ou autres dans les cavités pour que la croisière s'amuse. Et bien ça, justement, ça fait penser aussi Playmobil, Lego. On est dans une émission nostalgique un peu aujourd'hui aussi avec l'intro des Pokémon. Pour plus d'infos sur ces bricolages-là, on peut aller sur le site lifeatthezoo.com. Le mercredi, dans le Vieux-Port de Montréal, les lundis et mercredis matins de 10h à midi, on offre des matinées ballroom à ceux qui ont le rythme jusqu'au bout des lames. Des lames, oui, parce qu'on parle de la patinoire, même si le redoux menace de gâcher la glace naturelle. La météo n'est peut-être pas toujours clémente en mars pour les sports d'hiver, mais la portion réfrigérée de la patinoire des quais du Vieux-Montréal, oui, elle risque d'être tout de même de qualité acceptable. Pour plus d'informations, c'est sur le site vieuxportdemontréal.com. Et le vendredi, toujours le côté un peu nostalgique de l'enfance, l'ourson Paddington Brown. Alors, Paddington n'est pas qu'un film ou une série télé, c'est avant tout des livres racontant les aventures d'un ours péruvien débarqué à Londres et dont le premier tome a été publié en 1958. Alors, question de se replonger dans l'univers de l'écrivain britannique Michael Bound, certains titres, albums comme Petit Roman, viennent d'être publiés en français chez Michel Lafon. Un peu de marmelade avec ça. Pour plus d'informations, le site michel-lafon.fr.
Un principiante che non aveva mai amato, un po' distante, timido e titubante, ha disegnato mobili sui muri per avere più respiro e ricordi duraturi. Il principiante, simpatico e galante uomo, tento all'istante un dialogo inebriante, ha disegnato lettere sui muri per avere più parole, ricordi sicuri. La donna in bianco copre il sorriso coi capelli e mostra un fianco, spiega tutti i suoi anelli a voce stanca, un filo che va via, voce senza malizia e malinconia. Sul divano recita fiera il meglio di sé, lei esce e compra e ognuno per sé, lei esce e compra e dunque esiste, ma più che altro lei non resiste ai sogni proposti per l'avventura, tutti la stessa caricatura. Lei esce e compra e dunque esiste, ma più che altro lei non resiste ai sogni proposti per l'avventura, tutti la stessa caricatura.
Précipiente de Banda Bardot. Mm-hmm. Bon, on va rester dans les couleurs italiennes.
J'ai
parce
cru
que...
entendre, excuse-moi, oui. Marco Cagliari dans mes oreilles, puis Rémi à la console me dit que ça pourrait très... Ça se pourrait,
ouais, ils ont peut-être fait des choses ensemble.
Ouais, c'est ça, parce qu'on fait beaucoup de scènes ensemble.
Ouais,
c'est bon.
Une collaboration.
Ouais. Une belle collaboration. Et en tout cas, c'était très appréciable à entendre. Et du coup, comme je le disais, on va rester un petit peu dans les couleurs italiennes parce qu'il y a un projet de cinéma dans la petite Italie qui est en train d'arriver, initié par l'auteur et chroniqueur montréalais Sylvain Rémy. Le projet de salle de cinéma du Théâtre de la Petite Italie a été récompensé hier par une bourse de 10 000 dollars remise dans le cadre du concours Entrepreneur en Action organisé par la Corporation de Développement Économique Communautaire de Rosemont. la petite patrie. Le Mailand, lui, est connu pour la musique au-delà de ses frontières et il aimerait que la petite Italie soit associée au cinéma de la même façon. Avec le projet de théâtre de la petite Italie, Sylvain Raymond souhaite créer une salle de cinéma multidisciplinaire dans setup fixe, un mélange de vieux bancs, de sofas, de tables et de chaises qu'on peut bouger. Un espace divisé en une salle de projection d'environ 1700 pieds carrés et 100 places assises. Un bistrot d'à peu près 1500 pieds et 125 places. On veut faire des thématiques, note le concepteur, jouer avec des liens entre la programmation et la gastronomie. Par exemple, si le nouveau James Bond sort, on ne présentera pas forcément le nouveau James Bond, mais on fera une rétrospective. Et sur le menu, on retrouvera des clins d'œil à la série, comme un martini chicken. De la même façon, si on présente le parrain, il y aura des cannelloni au menu. Mmh. Ainsi donc, côté programmation, le trentenaire montréalais souhaite cibler les sorties récentes, certes, mais aussi les œuvres mythiques d'autrefois. Dans les films américains, illustre-t-il, quand un couple va au cinéma pour un rendez-vous galant, il ne va jamais dans un complexe laid. Il va toujours voir un classique. Pourquoi ? Parce que c'est romantique. Mmh. Ce gars m'emmène voir When Harry Met Sally pour la Saint-Valentin. Il est raffiné. C'est pourquoi on ne veut pas nécessairement présenter de la nouveauté. On veut surtout offrir l'expérience d'aller en salle, présenter des classiques. Outre cela, la salle imaginée par Sylvain Raymond comptera un seul écran. J'ai confiance que ça peut nous mettre la pression pour programmer de bonnes choses, a-t-il dit, mais il prévoit le numérique. Par contre, ça sera sans hésitation la place où on va se faire le plus de fun en allant voir un film.
J'ai peut-être une suggestion de nom pour cet endroit-là qui va être érigé Cinéma Paradiso en hommage au célèbre film.
Oui, effectivement, ouais. Ça peut être un nom.
Oui. À Québec encore, il y a une exposition qui est inaugurée au Musée de la Civilisation, Tirée par les chevaux, une exposition hors des sentiers battus. Ce sont les mots de Richard Boisvert, publiés le 26 février dans Le Soleil. Pour marquer l'entrée des 213 voitures réunies par Paul Bienvenu au sein de ses propres collections, le Musée de la Civilisation organise Tiré par les chevaux, une exposition peu banale qui permet d'admirer 18 des plus belles pièces. Ben, qu'est-ce que c'est? J'ai une question pour vous, les filles.
Oui.
Vous savez ce que c'est la Batmobile, oui? La voiture de Batman.
Oui,
Batman. Mais l'Hippomobile, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est?
L'Hippomobile?
Oui, l'Hippomobile. H-I-P-P-O.
Une voiture pour les chevaux.
Une voiture pour les chevaux.
Oui, exactement. Ah, oui. Je me suis vendu d'avance.
Tu nous l'as épelé, c'est pour ça.
Ben, oui, c'est ça. Mais oui, voilà, c'est dans le fond, c'est des carrioles, des voitures tirées par des chevaux qui seront exposées. Et c'est Paul Bienvenu, c'est grâce à Paul Bienvenu et à son temps qu'on peut admirer ces œuvres-là dans ce musée-là. Donc, la collection Paul Bienvenu doit une partie de sa richesse aux efforts de préservation des précurseurs montréalais tels Herb O'Connell, propriétaire d'une centaine de véhicules de toutes sortes, et le collectionneur américain Hugh Patton. Mais Paul Bienvenu demeure quand même l'unique collectionneur de voitures Hippomobile au Québec. Sans lui, sans cette passion qui l'a souvent poussé à sortir des sentiers battus, c'est tout un pan du patrimoine québécois qui serait dispersé ou sinon oublié à jamais. C'est grâce à l'activité déployée par M. Bienvenu depuis des décennies qu'on est en mesure de comprendre l'importance de l'industrie Hippomobile dans l'économie du 19e siècle et d'apprécier le savoir-faire des grands fabricants québécois. On remarquera entre autres le fabricant J.J. Sorin de Québec, concepteur d'un traîneau d'une élégance telle qu'on le choisira pour présenter le savoir-faire canadien à l'Exposition universelle de Londres en 1851. On a longtemps perdu la trace de cette pièce de grande valeur et après des recherches, M. Bienvenu l'a enfin trouvée aux États-Unis. L'exposition compte également quelques beaux spécimens de fabrication étrangère, une magnifique diligence fabriquée par Rothschild et fils à Paris, portant le chiffre du comte Louis-Adolphe de Louvencourt et ramené du Nouveau-Mexique, qui inspire une marque aux collectionneurs. « C'est une chose d'acheter une voiture, dit-il, c'en est une autre de venir la restaurer. » Cette exposition est à l'affiche jusqu'au 17 janvier 2016. Vous avez le temps, mais perdez pas de temps, ça a l'air que ça vaut le détour.
La semaine de relâche tant attendue par les enfants mm-hmm. est à nos portes et c'est pour cette occasion que plusieurs activités culturelles sont offertes. Mm-hmm. On va en proposer quelques-unes. Marie-Hélène Chartrand, dans le 24 heures d'aujourd'hui, nous fait un petit état des lieux de ce qu'on peut voir. Pour commencer, le festival de Castelier. Le festival célèbre l'art de la marionnette et propose 6 productions jeunes publics, et ce à partir de l'âge de 2 ans. En plus des spectacles proposés, les enfants sont invités à participer à l'atelier Castelier Toi aussi, lors duquel ils pourront fabriquer leur propre marionnette à l'aide d'un gant. Hmm. Surnommé le petit frère rebelle du festival de Castelier, le OUF propose des productions de tout genre, courte forme, vidéo, laboratoire. Dès lundi 2 mars, les familles sont attendues pour une grande fête où il y aura une présentation de courte forme, un atelier de manipulation de marionnettes et une course de poche de patates. Également, ça sera la semaine de la musique. Présentée par les Jeunesses Musicales Canada, ce festival propose près de 75 concerts et ateliers s'adressant au jeune public. Les performances musicales proposées sont à la fois ludiques et théâtrales, et les ateliers musicaux offerts sont en grande majorité gratuits. Également, le Festival international du film pour enfants de Montréal. Il célébrera son 18e anniversaire en proposant une programmation provenant d'une trentaine de pays et une sélection spéciale de films présentés au cinéma impérial. De plus, le cinéma d'animation japonais est à l'honneur cette année. Les petits comme les plus grands peuvent espérer trouver leur compte avec une programmation comprenant une section mini-cinéphile pour les 2 ans et plus et une section ciné-ado pour les 13 ans et plus. Également, plusieurs personnages ayant marqué l'imaginaire collectif, de James Bond à Che Guevara, en passant par Lucky Luke, accompagnés d'armes et d'objets en provenance de la collection du musée, sont présentés. Spécialement pour la relâche scolaire, les enfants de 4 à 12 ans pourront la visiter, suivant un jeu de pistes thématiques, en plus de fabriquer une affiche recherchée, directement sortie de l'époque western. Et enfin, de la Grèce antique aux marins de la Nouvelle-France, dans le cadre de l'exposition, les enfants sont invités à se familiariser avec le métier d'archéologue grâce à l'atelier Archéo-Aventure. De plus, l'exposition immersive Pirate ou Corsaire met à l'honneur les marins de l'époque de la Nouvelle-France. Les jeunes auront plusieurs défis à relever pour prouver qu'ils sont à l'étoffe d'un véritable moussaillon. Ces derniers sont invités à venir costumés en pirates. Donc voilà un petit peu un état des lieux de ce qu'on pourra y trouver. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais en tout cas, profitez bien de cette semaine.
Peut-on savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents?
Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin je vous la dernière main, à une chose tout à fait passionnante et qui fera du bruit.
Engage into a game that I'm sure to lose. Major sense of mind, if he could fall through the twist and get a clip, some bites of both, then it's something I know it takes some money, those are paper, keep in mind, we just ship the ship well far along the way. Divine numbers steady, so the ways would be distributing canales round the cone by not so long, I pray. Coming out the fame that seems, when all we gotta hear is stories. Dirty city on the sea, mighty friends, okay, crown of me. Trying to play you out, fool, don't you know that my jewels are way more satisfied to add before you lose? Cause it's the way my daddy made me die, and every day the wind be blowing, but we gotta get this done, hello! I know sometimes I seem to sick enough, a silly dream, but really trying to redeem your basement canteen. The sun
C'était Extramère du groupe Deluxe. Et Charles, on continue de se promener, cette fois jusqu'au musée.
Oui, exactement. Mais se promener, si vous êtes de Montréal, un petit peu loin, là, mais c'est un musée à Trois-Rivières qui s'appelle le musée Borealis.
Une longue promenade.
Oui, une longue promenade. Mais pour ceux qui restent pas loin, ben, ça vaut peut-être le détour. Ouais. Vous allez voir, ça va sûrement vous intéresser. C'est un texte de François Houde dans le Nouvelliste, publié le 25 février. Borealis mise sur les cinq sens. Le musée Borealis a connu un sommet de fréquentation l'an dernier et ses dirigeants se refusent de s'asseoir sur leur laurier. Ils inaugurent cette semaine le passage 5S, un ajout à leur exposition permanente qui va rendre plus immersive encore la visite du musée. En termes d'espace, on a eu qu'à effectuer un réaménagement en créant un long couloir d'un mur dans la grande salle principale. Ce couloir entraîne le spectateur dans une expérience visant à mieux comprendre le travailleur des papetiers en faisant appel aux cinq sens. Écoutez bien. Le premier a été sollicité, comme les trifluviens, sans doute, c'est le sens de l'odorat. Il nous fait comprendre l'origine des odeurs si particulières qui ont marqué la vie des trifluviens pendant des décennies et encore aujourd'hui à cause des usines qui sont encore présentes.
Ben oui.
Tout vient de la pâte, des produits entrant en composition. Or, pour chacune des trois pâtes de base qui permettent de fabriquer les types de papier, une odeur particulière en émane. L'expérience propose de prolonger notre main dans la pâte pour ressentir la texture. Le toucher est également mis à contribution pour tâter les toiles ou le feutre servant à assurer l'égouttement de la pâte faite à 99 % d'eau. Pour la vue, on propose un film datant de 1920 qui nous montre tout le processus de fabrication du papier dans l'usine. On trouve même le moyen de mettre le goût à contribution, mais on vous laisse le soin de découvrir par vous-même l'astuce pour le justifier.
Est-ce qu'on va manger du papier?
Je ne sais pas, du papier mâché? Oh,
c'est papier mâché, c'est pas mal.
Le moment fort du passage reste la cabine qui reproduit presque intégralement les conditions de travail des papetiers, l'humidité, le bruit et la chaleur. On n'arrive pas à atteindre les niveaux qu'ont expérimenté les travailleurs dans les moulins de la première partie du 20e siècle, mais l'expérience est suffisante pour donner une idée des conditions de travail déplorables. Or, le spectateur n'y est confronté que pendant quelques minutes, à peine, alors que les travailleurs supportaient tout ça pendant 50 heures par semaine. Les temps ont bien changé. Cette nouveauté ne transforme pas radicalement l'expérience des spectateurs à Borealis, mais rend la visite plus attrayante et surtout, elle devrait plaire aux plus jeunes, des fois parfois dépassés par les explications techniques sur les procédés de fabrication du papier. Cette exposition est inaugurée très récemment. J'avais pas de date dans l'article jusqu'à quand, ni sur le site jusqu'à quand l'exposition est là, mais elle fait partie de l'exposition permanente, donc c'est à voir au musée Borealis.
Donc, c'était une exposition sensorielle au musée Borealis, oui. Et là, on reste dans les sens, dans les sorties. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent la semaine prochaine pour la semaine de relâche et Montréal en lumière, la nuit blanche là, qui s'en vient en fin de semaine. Des activités gratuites, sortir sans se ruiner. Évidemment, il y a la Grande Bibliothèque et les bibliothèques montréalaises avec des contes pour enfants, des tables rondes, des ateliers, des conférences. Les activités des bibliothèques de Montréal sont détaillées sur le site bibliomontréal.com dans la section calendrier. Toujours dans la thématique des enfants et des jouets et des musées, le Musée des beaux-arts de Montréal, par exemple, offre des salles de collection permanentes. Et durant les fêtes et la semaine de relâche au Musée McCord, le mercredi soir, il y a une exposition de jouets. Il y a aussi l'entrée au Musée Red Pat qui est gratuite, bien que l'on suggère une contribution. En côté de l'humour, ben là, c'est pas gratuit, mais c'est quand même très accessible au prix de 7 $. L'humour au rabais avec des humoristes de la relève, notamment Quartier Latin, le pub L'Abreuvoir avec les mercredis 100% humour animés par Mehdi Boussaïdan. Le grand écran à petit prix, évidemment, je parle du cinéma Beaubien et l'Excentrif qui offre des billets à 10,50 $ au lieu de 12 $ en semaine avant 17 h. Que d'activités, mes amis!
Effectivement.
Tim Brady et non Tom Brady. J'ai une petite anecdote vite faite. Là. Oui. Je faisais une activité de marionnette avec des jeunes et je leur demandais de choisir un autre personnage. Puis une équipe qui a dit « Ah, moi, mon personnage va s'appeler Tom Brady, comme le hockeyeur. » Là, tout le monde s'est mis à choisir des noms de hockeyeurs. C'était vraiment charmant. Bref, Tom Brady, le musicien, le guitariste électrique, comme vous l'avez jamais vu, c'est un solo de haute voltige, un homme orchestre exploitant la technologie numérique, une image et un son HD époustouflant. Tim Brady nous dévoile deux œuvres en première et deux morceaux de son répertoire Free Birds et Simple Loops in Complex. En maître reconnu, Brady figure dans la liste des 30 guitaristes mettant le plus en valeur leur instrument par le magazine Guitar Player. C'est le 1er mars à l'Agora Hydro-Québec à 19 h.
Et je vous propose deux albums à écouter. Le premier, First Kiss. En effet, la vedette Kid Rock vient tout juste de lancer un disque aux couleurs country pop intitulé First Kiss. Il a d'ailleurs dévoilé le nouveau vidéoclip du même titre dans lequel on voit le chanteur nostalgique de ses jeunes temps. Et également, la chanteuse française de 23 ans, Luce, lance son deuxième opus, Show, qui nous entraîne dans la jeune énergie de l'interprète. Ses chansons pop françaises ont été écrites et composées par son acolyte Mathieu Borguette, qui représente bien la personnalité unique et colorée de Luce. On retrouve les extraits très animés de Polka et Le Feu au cul, ça sort le 23 février.
Betty Bonifaci, dans le cadre de, des Nuits Blanches de Montréal, chant d'esclaves, chant d'espoir. Reconnue pour sa voix chaude et puissante associée aux triplettes de Belleville et à Champion et ses G-String et à Beast, mais c'est comme ça qu'ils s'appellent l'artiste, là. Faut le dire tel quel. Betty Bonifaci revient en solo et nous présente très humblement le projet Chant d'esclaves, Chant d'espoir, un hommage aux chansons noires des années 20, chansons de pionniers, de travaux forcés, de chemin de fer. Créé pour supporter les conditions de travail trop souvent inhumaines. Chair de poule garantie, c'est à l'Astral le 28 février à 20 h.
L'équipe montréalaise de soccer, l'Impact, invite les amateurs de sport à assister gratuitement aux jeux de calibre où les joueurs livreront des performances hors du commun. Les visiteurs seront filmés et leurs prouesses seront projetées sur des écrans géants. Pour le plaisir des fans de l'équipe, ça débute demain soir à 17 h au Stade Olympique.
Toujours dans le cadre de Montréal en lumière, le pied à l'honneur, c'est la Suisse. Et vous pourrez voir Stéphane Hitcher le 28 février à 20 h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Pour ce concert très particulier, la Suisse le plus célèbre du monde musical et notre coprésident d'honneur se présentera seul sur scène comme à ses débuts, mais cette fois-ci, écoutez bien, entouré d'automates qui joueront avec lui et interpréteront également ses plus grands succès. Un spectacle complètement inédit qui propose une manière nouvelle de faire sa part, sa musique finalement. Ouais. C'est un must. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à Rémi, à la console. Merci,
oui,
à vous,
merci
à la
à
maison.
Vous.
Merci à vous, co-animatrice. Et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de Kiosque.
Exactement, avec grand plaisir.
Et bonne fête, les Pokémon.
Ben oui.
On les oublie pas, bien évidemment.
Non, c'est ça.
Bonne fin de semaine.
Au revoir. Au revoir.